transform everything I touch. Multiply it so the family can receive it. Love, no hesitation, just celebration. Build firm foundations to feed the nations. My ground is fertile and my soil is pure. Through Mama Earth, you will find a cure. Love to the lost and weary, guiding those who feel so dreary.
Le pouvoir. pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Darmanin, l'État a essayé de détourner l'attention sur de la violence qui ne venait que d'eux. 3200 agents des forces de l'ordre pour protéger un trou vide.
Mars 2026, 3 ans après Sainte-Soline, le paysan et député écologiste Benoît Biteau.
Un trou vide financé par 70% d'argent public et un trou vide illégal. 30 000 personnes qui sont aussi des contribuables revendiquent ne pas vouloir que leurs impôts, l'argent public, aillent financer des projets dénoncés par la science, condamnés par la justice, veulent se réunir pour manifester qui est un droit constitutionnel, on leur interdit la manifestation. Dans un contexte de dérèglement climatique, dans un contexte d'effondrement de la biodiversité, on doit repenser une agriculture qui, si elle ne se repense pas, va être la première victime du délire porté par des Duplon, par des Genevard, par des Arnaud Rousseau, qui continuent d'avancer droit dans le mur et d'accélérer.
Reprendre la main sur des communs vitaux, l'eau, la terre, l'air, c'est encore possible. Lutter contre cette mortifère agro-industrie, lutter contre les cancers engendrés par ces pesticides et autres poisons chimiques, lutter contre Duplon, ses fermes-usines, ses méga-bassines et son inutile acétamipride tueuse d'abeilles, lutter contre Genevard, ministre de l'Agriculture aux pesticides, lutter contre Rousseau, chef de la pieuvre agro-industrielle FNSEA, mettre en place d'autres modèles d'agriculture et de gestion du commun, sortir d'un absurde technosolutionnisme et revenir à la raison, tout cela est encore possible. Et ces luttes ne se passent pas seulement en manif sous répression policière, ces combats ont aussi lieu dans les labos, les tribunaux, dans les instances de gestion de l'eau où des citoyennes et citoyens lambda peuvent siéger. Salut les amis, c'est JBD pour Polémique, c'est la voix off et pour votre radio encore libre préférée. Mars 2026, 3 ans après la féroce répression policière de Sainte-Soline, la ville de Mel, dans les Deux-Sèvres, accueille à nouveau le collectif Bassine Non Merci, qui a notamment organisé cette table ronde sur la politique de l'eau, dont on vous a proposé la première partie au précédent épisode de cette émission. Alors une heure de parlotte un peu technique, ça donne pas forcément envie, mais il va se dire là des choses terriblement importantes sur l'eau et sur notre santé. Alors le but de cette restitution de table ronde n'est pas de faire de vous des professionnels de la gestion de l'eau, on va pas ici vous expliquer ce que sont les clés, commission locale de l'eau, ni les SAGE, schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ni le PTGE, projet de territoire pour la gestion de l'eau, des instances envahies par des promoteurs de l'agro-industrie. Ce que vous allez entendre, c'est qu'avec militantes et militants, paysannes et paysans, politiques, syndicalistes, scientifiques, citoyennes et citoyens, contribuables lambda comme vous, nous avons notre mot à dire sur notre santé, sur la gestion de l'eau, de la terre, de l'air, sur l'utilisation de nos impôts, et que celles et ceux qui s'en sentent capables ont le droit de siéger dans ces instances et de surveiller les élus pour ne pas laisser les leviers de décision à la FNSEA et donc à l'agro-industrie. Comment lutter, comment gagner ? Adeline de Bassine Non Merci relance la table ronde.
Comment faire face ? On a un panel de 6 intervenants et intervenantes qui représentent différentes phases de la société. On a des élus au niveau national, syndicats, des citoyens, des paysans, des associations, des collectifs. Et donc cette troisième partie, on va prendre sur quelques exemples justement comment avec différentes casquettes, on peut intervenir et faire bouger les lignes. On a parlé d'un énorme acronyme, le PTGE. Je vais te demander, Morwen, est-ce que tu peux nous parler aussi des alternatives. Qu'est-ce qui peut être proposé d'autre et justement en lien avec le PTGE ?
Anne-Morwen Pastier, docteur en sciences de la terre, hydrogéologue.
Je peux vous parler de l'expérience qu'on a eue avec Vite 85 et Terre et Rivière. Sur le département de la Vendée, on a fini, pour faire court, en faisant un petit peu pression, par être reçu par le PTGE Vendée-Sèvres-Autisme. Je vais faire le petit plaisir de vous dresser le tableau du Sud Vendée. C'est parmi les premières méga-bassines qui sont arrivées en France. C'est le modèle vendéen où tout le monde dit « Mais regardez, les bassines, c'est génial. Le marais, il va tellement mieux depuis. Les conflits d'usage, ils se sont arrêtés. » Le bassin des Authis, c'est vraiment la plus grosse concentration de bassines, de volume bassinable au kilomètre carré. Et les bassines, ça a tellement bien marché que dans le nouveau PTGE qu'ils préparent, ils veulent en refaire. Parce qu'en fait, ça n'a pas si bien marché finalement. Et le Marais Poitevin, il ne va pas si bien que ça. Les objectifs, ils ne sont pas tenus. Donc ils veulent refaire des bassines. On a fini par s'imposer. Hein. Il a fallu que Vite 85 et Terre Rivière organisent une conférence publique pour qu'on arrive à être entendu au PTGE. On leur a proposé de reprendre le fonctionnement normal de ce qu'on appelle l'hydrosystème du Marais Poitevin. L'hydrosystème, c'est juste quand on regarde les relations entre les nappes, les rivières, la pluie, etc. Il y a quand même eu plein de rapports demandés, d'études scientifiques demandées sur l'état du Marais Poitevin depuis les années 90, qui disent toutes qu'il faut garder le fonctionnement traditionnel du marais avec l'ennoiement des marais mouillés. Il y a une partie entre le reste du bassin versant et vraiment la plaine, qui est une ceinture, ce qu'on appelle les marais mouillés, qui retiennent l'eau de pluie du bassin versant pour qu'on puisse cultiver dans les plaines ce qu'on appelle le marais desséché. Et ça fait maintenant plus de 20 ans qu'on a décidé qu'on n'inonderait plus les marais mouillés. Voilà, on leur a montré qu'en renoyant les marais mouillés, non seulement on gardait de l'eau pour l'aval, puisque l'idée c'est d'irriguer en aval à la base, mais ce que je leur ai montré, c'est que ça permet de rehausser le niveau de la nappe en amont. Du coup, juste remonter le barrage à la cote à laquelle il était traditionnellement, donc ce qui coûte 0 euros, hein, puisque tout est déjà prêt, ça permet de stocker immédiatement des millions de mètres cubes dans la nappe, accessible à tous les irrigants qui ont déjà leur forage, pour 0 euros et tout en préservant l'écosystème. On m'a dit, bah oui, mais alors qu'est-ce qu'on cultive ? Dans les marais mouillés. Je dis, ben voilà, des pâturages, comme ça en août, il y a de l'herbe verte, du maraîchage. En fait, le seul blocage qu'il y a, c'est ces quelques gros céréaliers qui veulent vider les marais. Quand même, il y a toute une tendance sur la restauration des bassins versants, comment on identifie certaines zones humides qui sont des clés pour maintenir les niveaux de nappe assez hauts. Dans le monde scientifique, en tout cas, ce sont des voix qui se font entendre de plus en plus et qui arrivent à faire entendre que nos solutions sont plus efficaces que le technosolutionnisme.
Est-ce qu'Amandine, tu peux nous parler de comment se mobilise la Confédération Paysanne ? Les liens aussi, est-ce qu'il y a des liens faits avec les autres pays ?
Amandine Pacot, de la Confédération Paysanne.
La Conf, on essaye de continuer à se mobiliser depuis toujours sur la question de l'eau. Même si ça en emmerde beaucoup, on reste un syndicat représentatif, donc on a nos places quand même dans pas mal d'instances. Même si souvent, dans les instances de l'eau, c'est la Chambre d'agriculture qui représente le monde agricole, on n'y est pas. Sinon, on a quand même des sièges dans certaines instances, notamment là au niveau national, on a obtenu d'avoir un siège au Comité national de l'eau. Là, on fait pression sur les préfets en ce moment parce que les clés, justement, les personnes qui siègent vont être renouvelées. Actuellement, il n'y a pas de place pour les syndicats agricoles. On fait pression, on n'est pas les seuls. Donc à voir aussi si on arrive à y rentrer. Dans les PTGE, c'est pareil. Maintenant, ils ont compris qu'il fallait nous inviter. Donc là aussi, légalement, on est censé être dans les comités de pilotage des PTGE. Donc là, il y en a un, par exemple, sur la Sèvre-Niortaise, auquel on participe. Mais bon, il n'y a aucun moyen hein, là-dessus aussi. Hein. Ils annoncent des trucs, mais en fait, ils ne mettent pas de sous en face. Donc bon, les PTGE, ça les emmerde plus qu'autre chose, quoi. Mais donc, on essaye voilà, d'être présent partout où on peut. Vendredi matin, il y avait Genevard qui est venu sur une énorme ferme, la plus grosse ferme consommatrice de volume d'eau en Deux-Sèvres. Ben là aussi, voilà, en tant que syndicat agricole, on avait notre place. Donc nous, on essaye de la prendre dès qu'on peut, que ce soit en local ou au national, pour dire qu'il y a une autre manière de faire de l'agriculture. C'est important, en fait, d'essayer de chiffrer d'autres alternatives, parce que là, on voit bien, ça coûte un pognon, enfin, ça coûte tellement d'argent. Et en fait, sans parler d'aller vers... que des gens en vente directe, en bio, enfin voilà, moi c'est mon idéal, mais... Et ça, c'est pas la Conf qui le dit, c'est l'INRA. Si on changeait, par exemple, 30% de la solde de maïs en sorgho, en mettant de l'argent dans la filière sorgho pour que les agriculteurs, ils puissent vendre correctement, avoir des débouchés, en fait, ça coûterait moins de fric et du coup, on aurait un impact sur la consommation des agriculteurs. ils consommeraient moins d'eau, quoi. Donc en fait, il y en a plein des solutions qui sont pas non plus révolutionnaires, quoi. Allonger les rotations entre les différentes cultures, enfin, il y a plein de choses qui sont possibles. Et nous, voilà, la conf, on essaye de toujours ramener ça pour dire, mais en fait, le modèle méga bassine, c'est votre solution à vous, là, que vous avez identifiée, mais en fait, il y en a d'autres moins coûteuses et plus performantes. Donc voilà, donc ça, il faut le marteler. Donc ça, c'est vraiment pour la partie quantité d'eau qui est utilisée par les agriculteurs, mais il y a aussi sur la qualité. Donc là, du coup, la conf aussi en Ille-et-Vilaine est à fond à côté des autres organisations pour parler plutôt la qualité. Après, on est sur le terrain, on essaye d'être toujours aux côtés de tous les copains et copines qui se mobilisent. Comme aujourd'hui, j'annonce juste là le 11 avril à Brissac dans le 49. Donc c'est un projet de bassine là dans une ancienne carrière. Donc en fait, ils agrandissent la carrière. Donc il y a aussi tout un combat contre l'accaparement de la terre. Il y a ce projet de bassine qui va alimenter 12 fermes. Sinon, je refais écho un peu à ce qui a été dit au tout début, mais je trouve que c'est positif, c'est que le combat en Deux-Sèvres et en 86, il forme aussi les militants sur place. Partout en France, enfin, nous on voit la conf dans la Sarthe, ils sont déjà à fond au taquet, ils comprennent comment ça fonctionne et du coup ils sont en veille permanente. Dans le Gard, il y a déjà eu plusieurs mobilisations portées par la conf et d'autres partenaires sur l'eau. Enfin, on se prépare aussi partout et ça je trouve que c'est hyper fort et positif. Dernier exemple de mobilisation côté conf. En fait, notre plaidoyer, on est convaincu d'une autre gestion de l'eau, convaincu qu'on peut cultiver autrement, mais on manque de données, on manque de chiffres. Et du coup, on a lancé cette année, on avait commencé l'année dernière, mais là on lance une grande enquête sur l'eau, en fait, sur le territoire national. Vraiment, l'idée, c'est que ça soit de la recherche participative, que ce soit les paysans eux-mêmes qui expliquent comment ils font pour vivre sans mégabassines et même sans irrigation, plus de 90% des paysans et des paysannes. Et donc du coup, après, avec ces données, on veut appuyer notre plaidoyer. Ça, voilà, c'est un travail aussi qui se fait sur le terrain. Et le lien avec les autres pays, bien sûr, il y a la Via Campesina. Nous, on a une attention à travailler avec le Brésil. Le modèle de l'agro-industrie, hein, c'est un autre niveau que nous. Et pourtant, ils arrivent à avancer, à faire passer des politiques différentes de gestion de l'eau, notamment pour l'agriculture paysanne. C'est des choses qui se construisent et on a du boulot. Mais en tout cas, on lâche rien et il faut continuer à lutter, quoi. Il n'y a pas le choix.
Avant justement d'aller sur les mobilisations citoyennes, comment se mobilisent les élus qui sont justement pas dans la majorité et enfin dans le mouvement actuel, quoi.
Benoît Biteau, paysan, agronome, député de Charente-Maritime.
On a quand même à côté de nous deux incorrigibles révolutionnaires qui veulent faire manger de l'herbe à des herbivores. Je vous invite à méditer cette réflexion. Alors les élus, moi j'ai vécu une période de ma vie d'élu où j'étais dans la majorité et où là on a des vrais leviers, sans vouloir me jeter de fleurs et manquer d'humilité et de modestie. Si on n'a toujours pas réussi à engager des fonds régionaux ou des fonds européens sur les mégabassines sur le périmètre Poitou-Charentes, c'est parce que j'ai posé un règlement d'intervention en 2011 qui compliquait tellement les règles pour financer des mégabassines sur ce périmètre-là que, comme il a tenu jusqu'en 2023, on n'a pas réussi à libérer des fonds régionaux. Et comme au moment où les régions deviennent autorités de gestion pour les fonds européens en 2013, je construis le plan de développement rural régional pour la région. Je reprends exactement les mêmes règles que celui du règlement d'intervention voté en 2011. Et donc jusqu'en 2023, presque 2024, on n'a pas réussi à débloquer ni des fonds européens ni des fonds régionaux sur les mégabassines parce qu'ils étaient bloqués par ces outils-là. Donc c'est aussi ça, être élu, avoir un peu de subtilité, poser des grains de sable dans des mécaniques qui sont pourtant très lourdement financés, on a fait le tour tout à l'heure, via la politique agricole commune, via des plans dédiés, via les agences de l'eau. Eh bien, le fait de poser ce petit grain de sable sur une partie des financements pressentis a probablement ralenti considérablement ces projets de mégabassines. Après, quand on est dans l'opposition, et c'est mon cas, là, il faut être encore plus créatif, imaginatif, parce que on a un rouleau compresseur, que ce soit à Bruxelles, avec la Commission, et c'est des retours en arrière. Et donc là, il faut être un peu créatif. Et c'est ce qu'on a essayé de faire sur la loi du plomb, sur la loi d'orientation agricole. C'est-à-dire qu'on a fait des saisines du Conseil constitutionnel. Sur la loi d'orientation agricole, sur les 14 articles qui étaient portés par le Sénat et Laurent Duplon, on a réussi à en faire péter 13. 13 sur 14, c'est quand même pas si mal. Et sur la loi Duplon, on a pas tout gagné, mais on a quand même fait retirer l'acétamipride. Donc voilà, c'est ça, être élu dans l'opposition, mais c'est resserrer les liens avec la société civile. Et moi, je demande que les élus retravaillent avec tous ces collectifs, toutes ces associations, tous ces syndicats, pour qu'on fasse cause commune, qu'on arrive à faire vivre une convergence des luttes. Et je vous demande à vous de ne pas regarder les élus comme des gens vilains, parfois pourris, parce que parmi les élus, il y a ceux de l'opposition qui, je vous garantis, font le boulot pour essayer de relayer vos revendications. Les élus vous ouvrent les portes de l'Assemblée nationale, parfois du Sénat, et vous ouvrent la parole. Quand on est élu de l'opposition, on essaie d'être créatif, je le répète, et en toute humilité, je vous dis, moi j'ai besoin de vous, on a besoin de vous, pour réussir à faire bouger les lignes quand on n'est pas dans la majorité.
Merci pour l'intervention. Donc justement, quand on est citoyen et tout, comment on peut intervenir ? Caroline, je vais te redonner la parole à Cancer Colère, et puis après, au collectif Bassine, non merci.
Caroline Proust, du collectif Cancer Colère.
Merci. À Cancer Colère, jeune collectif, donc on essaye, de faire beaucoup de choses différentes, mais la première, c'est avant tout d'informer, de faire de la pédagogie, parce qu'en fait, on s'aperçoit que même auprès de nos proches et même de militants à côté de nous, cette question des maladies, parce qu'il n'y a pas que le cancer, toutes ces maladies là, qui sont provoquées par les violences chimiques, ça concerne aussi les questions d'infertilité, ça concerne les questions de maladies auto-immunes, ça concerne donc les maladies endocriniennes, en fait ça concerne tellement de choses, il est difficile pour un cerveau normal de se dire bah ouais en fait là on est entouré d'agents qui peuvent nous rendre malades et nous tuer et tuer nos enfants et c'est normal qu'un cerveau normalement constitué vraiment fasse pas la bascule. Nous on a fait la bascule parce que nos histoires personnelles ont fait que c'est un processus et du coup moi je comprends que ce soit difficile de mettre ces lunettes qui sont comme les lunettes du genre à un moment de voir ce truc là où on est dans un environnement dangereux. Et donc nous, on essaie de faire la pédagogie auprès de tout le monde, aussi du grand public, et c'est pas simple en fait. Voilà, je parlais de ce côté scientifique où on se renseigne énormément pour essayer de vulgariser la science. Mais ce qu'on essaye aussi avant tout, c'est pour faire comprendre et pour faire aider à la bascule, c'est de changer une certaine rhétorique. Je vais donner comme exemple pour vous faire comprendre Octobre Rose. Octobre Rose, qui est une grosse blague, c'est ce qu'on appelle du pinkwashing, hein. Une espèce de grosse campagne financée par des gens qui sont pas forcément les mieux placés en termes de protection de la santé environnementale, tout ce qui est crème solaire, tout ça. Et en fait, les gens sont contents et satisfaits parce qu'ils portent des rubans roses et parce qu'on dit qu'il faut faire un dépistage du cancer du sein. Bah déjà que les gens qui empoisonnent portent un ruban rose, en fait, c'est pas ça qu'on veut. On peut pas se satisfaire de ça, de voir Annie Genevard qui porte un ruban rose, on s'en fout un peu. Demander aux gens d'aller faire un dépistage. Alors c'est bien, hein, il faut faire des dépistages, hein, je dis pas qu'il faut pas le faire. Sauf que la question c'est quand même que quand on fait un peu de dépistage, c'est qu'on est déjà malade. Une vraie politique de prévention, c'est empêcher les gens de tomber malades. Ça paraît débile, mais en fait c'est ça nous qu'on demande. Nous ce qu'on veut c'est ne pas être malade, ne pas voir nos enfants tomber malades. Et ce serait ça une vraie politique de santé publique. Donc Octobre Rose, nous ça nous hérisse les poils. Et donc ce qu'on essaie de faire avec Cancer Colère, c'est que les gens comprennent qu'en fait, on se fout un petit peu de nous et qu'on essaye toujours de faire porter des responsabilités personnelles. Je viens d'avoir un flash sur la Ligue. La semaine dernière, la Ligue contre le cancer, ils ont fait une série de posts, une campagne. En fait, ça commence par « Non, les pesticides, c'est pas ça qui rend malade. » Donc là, nous, en fait, on voit ça, on fait des bombes 4 mètres. Et il y avait un autre post juste après, c'était « Non, les crèmes solaires ne donnent pas le cancer. » Et là, on dit, non, les gars, ils insistent. Et là, il y a un troisième poste qui dit, attention à la désinformation scientifique. Ouais. On est assez nombreux de plein d'organisations qui luttent contre les pesticides à être en lien un peu quotidien. Donc, quand les gars font une blague comme ça, en fait, on est assez nombreux à en même temps dire, hé, vous avez vu le poste ? Il se trouve qu'ils ont enlevé le poste sur les pesticides parce que le truc est monté et qu'ils ont eu les oreilles qui sifflent. Si on n'est pas vigilant et qu'on n'est pas tous ensemble à dire non, ça c'est pas possible, on va pas vous laisser faire, ils vont continuer à faire des trucs comme ça. La Ligue, c'est pas des copains quoi. Et donc, dans les solutions pour revenir à nos moutons, c'est ça en fait. C'est de rester tous ensemble, tous vigilants. Ça rejoint tout ce qu'on dit, hein, la convergence des luttes. Si on la fait pas maintenant, on la fera quand, la convergence des luttes ? Enfin, on est un peu au pied du mur. Là, on parle de l'eau, on parle de la santé, enfin, on parle de sujets un peu précis, mais on a bien conscience tout cela qu'en fait, le sujet, il est plus large. Et que là, en plus, dans tout ce qui se passe, rien que dans tout ça, on en parlait tout à l'heure, des problèmes démocratiques dans la manière de faire ces lois-là, on est au pied du mur. Ouais, là, c'est maintenant tous ensemble, et on va y arriver tous ensemble.
Du coup, dans les moyens d'action, bah, peut-être pour faire un petit package à Bassino Merci, nos moyens d'action, ils sont... On fait et on a fait énormément d'informations, de pédagogie. C'est ce qu'on va continuer à faire ensemble sur la LUA, d'aider à décrypter et de porter ces messages. Parce que vraiment, il y a un truc, même quand on parle d'inégalité de répartition des volumes d'eau, par exemple, il y a énormément de rétention d'informations. Ça passe dans la LUA de réduire le débat public. Et en fait, qui est-ce qui assure aujourd'hui le débat public? C'est nos collectifs. C'est nous qui faisons fuiter les infos, qui faisons les analyses, qui organisons les réunions publiques. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur à BNM, quoi. C'est nous qui faisons l'information sur les bassines et maintenant au-delà, sur la gestion de l'eau, etc. Enfin, c'est nos collectifs, quoi. Évidemment, un autre pied sur lequel on joue, bah, c'est celui du rapport de force. Voilà, il va falloir peut-être qu'on se creuse la tête aussi pour savoir quel autre type de rapport de force on met en place, comment on peut les faire chier sur tous les points, tout le temps, tous ensemble, quoi. On a bien vu, par exemple, avec Sainte-Soline, quoi, qu'on arrive à des limites dans ce genre de mobilisation massive, comment on réinvente nos rapports de force, et comme tu as dit, ensemble, quoi, avec nos complémentarités, et comment on entre en symbiose pour que nos actions... vraiment s'amplifie. On est tous ici force de proposition aussi. Alors, je m'excuse platement parce que j'en ai oublié une, mais on a aussi fait avec BNM Haute Couture un énorme travail collectif sur un PTGE alternatif citoyen. On regorge de gens très brillants dans nos collectifs qui, quand on se met ensemble, on trouve vraiment des solutions presque faciles à mettre en œuvre très rapidement, quoi. Contre cette loi d'urgence agricole, bah, c'est ce qu'on va essayer de faire, voir comment on peut travailler ensemble, commencer à produire des analyses et de l'information justement pour que les gens puissent s'approprier ce texte qui est imbuvable, sinon, quoi, comprendre ce qui nous attend. Aussi, dans l'actualité, c'est qu'avec les municipales, il va y avoir un gros chamboulement dans la composition des commissions locales de l'eau, puisqu'il y a beaucoup d'élus municipaux dans ces clés. Un travail qu'il va falloir qu'on fasse sur chaque bassin, c'est regarder quelles vont être les nouvelles personnes nommées, puisque toutes les personnes qui n'ont pas été réélues, par exemple, ne vont pas pouvoir continuer à siéger en commission locale de l'eau. Est-ce que ces gens ont des conflits d'intérêts? Faire pression sur les nouvelles municipalités pour que les représentants et représentantes qui sont envoyés dans les clés ne soient pas des doubles casquettes, ne soient pas à la fois maires et irrigants, ne soit pas à la fois maire et draineur. Vraiment, suivez vos municipalités, qui est envoyé dans ces instances de l'eau. Il y a toujours des offensives juridiques, bah, notamment encore en Haute Couture, un verdict en attente. Il y a un projet 14 bassines,
9,
14 c'est celles qui existent déjà, qui ont été annulées en première instance par la justice, qui la passent en deuxième instance. Donc on va avoir le verdict prochainement. Ouais, voilà, côté juridique, c'est ça.
Merci. Vous l'avez compris, en fait, en fonction de ses compétences, il y a une place dans les collectifs citoyens qui est pour chacun. Il y a compétences et il y a aussi temps, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin d'être à plein temps. On peut avoir des petits moments par-ci, par-là et contribuer, et chaque contribution est importante. On peut, sur un moment de l'année, contribuer, et puis sur d'autres moments de l'année, d'être pris. Donc n'hésitez pas à contacter tous les collectifs. Et puis pour conclure sur cette dernière intervention, il y a quand même eu un déclic avec la loi du plomb. Il y a quand même le grand public qui s'est prononcé. Et donc je te redonne la parole sur cette question-là.
Julien Rivoire, chargé des campagnes agriculture à Greenpeace.
Je vais revenir là-dessus sur les enseignements. Non pas pour se dire qu'il y a des recettes de victoire, je mets des guillemets, hein, c'est pas une victoire législative. Mais je pense que vraiment, effectivement, il y a une victoire idéologique. On a marqué des points. Et donc il ne s'agit pas de trouver la recette qu'il faut utiliser, mais se dire, ok, qu'est-ce qui a fait qu'il y a 2 100 000 personnes qui ont signé? Qu'est-ce qui a fait qu'au-delà même des signatures, il y a nos propositions, nos positions qui se sont imposées à l'agenda et qui s'avèrent majoritaires. Au-delà des 2 millions, toutes les enquêtes, etc., le montrent, et les discussions avec les proches, etc. Je pense qu'il faut rompre avec toutes les récits de l'événement spontané. C'est une erreur de penser que, comme ça, il y a des hasards.